Merci beaucoup, professeur Neissel. Alors maintenant, nos deux directeurs des instituts Trottier vont circuler dans les rangées pour recueillir vos questions. Alors j'espère que vous avez plus le temps d'écrire des questions et ensuite ils vont filtrer tout ça pour se faire ressortir celles qui reviennent les plus fréquentes. Et moi, j'ai aucun rôle à jouer là-dedans. Je reçois les questions et je les lis. Mais entre-temps, on a parlé de l'objectif du mini-symposium ce soir qui est en fait, de répondre à la question, un Québec 100% à l'énergie propre, est-ce possible? Alors, pour bien répondre à cette question-là, il y a un fait important qu'on n'a pas mentionné encore, qui est, ben, à quel pourcentage sommes-nous actuellement? Sommes-nous à 95? Sommes-nous à 5? Quel est le chemin à parcourir pour arriver à un Québec 100% à l'énergie propre? Alors, avant donc l'événement, je suis allé faire mon tour sur Ressources naturelles Québec pour faire ressortir certains chiffres et j'aimerais juste procéder par essayer de sonder à main levée la salle ici. Quel est, d'après vous, le pourcentage d'énergie au Québec qui est produite et qui n'est pas propre? Et je vais reprendre la définition de professeur Villeneuve, c'est-à-dire qui émet des gaz à effet de serre. Alors commençons par diviser juste pour voir qui croit qu'on produit plus de 50% que l'énergie qu'on consomme n'est pas propre, donc à plus de 50%. Qui pense que c'est plus que 50%? Qui pense que c'est moins de 50%? Donc c'est à peu près identique en fait. Donc en fait, est-ce qu'il y en a qui connaissent le chiffre, qui voudraient s'avancer? Le pourcentage de l'énergie qu'on consomme qui produit des gaz à effet de serre, en fait, qui provient de combustibles fossiles, c'est 60% actuellement. Alors, nous produisons 40% d'énergie propre sous forme principalement d'hydroélectricité. Parmi ces 60%, les deux tiers, 40%, proviennent directement du secteur des transports. Alors, si on veut vraiment faire un changement dans le contexte spécifique du Québec, ça nous prend nécessairement des améliorations au niveau de la réduction des gaz à effet de serre dans le transport. J'aimerais inviter les panélistes à prendre place à l'avant pour discuter de ces questions. Alors, est-ce qu'on a des... Alors, juste avant... Merci beaucoup. Alors, je vais me permettre de poser la première question avant de passer donc à celle du public. Quels sont les défis technologiques, sociaux et économiques pour réussir l'électrification du transport au Québec? Surtout que ça nous a été promis récemment comme objectif par le gouvernement péquiste. Est-ce que quelqu'un veut parler des défis technologiques, sociaux et économiques de l'électrification des transports?
Les défis technologiques sont essentiellement liés avec la capacité de l'autonomie des véhicules. Les véhicules électriques à l'heure actuelle sont limités non pas par les moteurs, mais par les batteries. Et le temps de recharge des batteries, la puissance qu'on peut y mettre et surtout l'énergie qu'on peut y stocker. Parce qu'il faut faire une différence entre la puissance et l'énergie. Mais les batteries à l'heure actuelle sont le grand défi technique. En ce qui concerne le défi social, je ne crois pas que personne ne serait vraiment choqué d'être pris sur le pont Champlain avec un véhicule qui s'arrête au lieu de continuer à tourner à condition que la radio continue de fonctionner. Le grand défi, je dirais, éthique, c'est le fait de cesser de travailler avec l'automobile individuelle comme étant un objet de consommation normale. L'automobile est le plus inefficace des moyens et le plus inefficient des moyens pour le transport en termes d'automobile individuelle. La seule chose pour laquelle l'automobile est efficace, c'est de partir à l'heure où tu veux partir. Parce que à partir du moment où plusieurs personnes veulent partir à la même heure pour aller au même endroit, ils n'y arrivent pas.
Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ou?
Je veux peut-être ajouter qu'à la base, l'automobile est un peu un objet de liberté. Et on veut avoir pleine liberté de ce qu'on fait. La plupart d'entre nous veulent pouvoir, par exemple, téléphoner à la maison vendredi après-midi en disant « Chérie, fais les valises, nous partons quelque part à 300 km de là. » On ne le fait jamais. Mais le véhicule aujourd'hui le permet, que l'électricité ne fait pas. Juste un petit chiffre, lorsque vous faites le plein à la pompe à essence, la puissance qui est transformée, qui est transférée à ce niveau-là, est de l'ordre de quelques mégawatts, si vous faites le calcul d'une façon simple. Donc la capacité de stockage d'énergie de l'essence est énorme par rapport à la partie électrique. Et c'est là le véritable défi que l'on a aujourd'hui, et de savoir effectivement jusqu'à quel niveau nous sommes prêts de un peu plus planifier notre façon de vivre. Nous sommes par exemple en train de travailler à l'école polytechnique sur des recharges extrêmement rapides d'un véhicule, c'est-à-dire de pouvoir le recharger à peu près en 10 minutes, tous les à peu près 150-200 km. Et ça, c'est probablement relativement acceptable. Si vous devez vous arrêter tous les 200 km pendant 10 minutes, il y a d'autres besoins que vous avez à faire à ce niveau-là. Donc c'est probablement compatible. Mais on n'en est pas du tout là encore aujourd'hui.
Merci. Alors, tandis qu'on vous a, professeur Pulgan, deux questions qui vous sont adressées. Première, pourquoi dites-vous détester les smart grids? C'est passé comme ça, un petit coup de couteau au smart grid. Alors, pourquoi? Et ensuite, peut-être une deuxième question du même de la même personne. Par quoi remplacer le nucléaire dans les pays qui vont vouloir sortir du nucléaire?
Pourquoi j'aime pas les smart grids? En fait, j'ai présidé pendant quelques années la plus grande association mondiale qui s'occupe d'énergie électrique, qui s'appelle la IEEE Power and Energy Society. Et c'était pendant cette présidence, en début 2004, qu'on a organisé un séminaire pour les membres du Parlement à Washington et leur staff. Et là est venu un consultant qui a parlé notamment de ce qui s'appelait à l'époque les smart meters, et puis tout est devenu smart. J'aime pas cette expression parce que, en fait, pendant plus de 100 ans, une des plus remarquables développements technologiques qui a été fait, d'ailleurs, ça a été dit par la National Science Foundation américaine, est précisément le réseau électrique. Donc, jusqu'à là, on n'a pas eu un dumb network. C'est pourquoi j'aime pas cette expression. Et aujourd'hui, tout est devenu smart. Il y a les smart cities, il y a les smart je ne sais trop quoi. Donc, je préfère utiliser l'expression intelligente, adaptative. Et d'ailleurs, l'industrie est en train de virer à ce niveau-là. Il n'y a aujourd'hui pratiquement que les politiciens qui parlent de smart, mais ils vont également comprendre que ce n'est pas la bonne expression. Smart grid, ce n'est qu'une question de sémantique. Alors, par quoi remplacer le nucléaire? Alors, par exemple, en Allemagne, l'Allemagne a très rapidement, après l'accident de Fukushima, l'Allemagne a, le 17 mars, a arrêté 5 centrales nucléaires d'un coup. Mais lorsque l'Allemand est rentré le soir pour mettre la télévision, pour voir la Mannschaft étrier l'équipe suisse de foot, la télévision s'est allumée. Lorsqu'on a mis en route la machine à laver le linge, elle a tourné. Donc la seule chose qui s'est passée immédiatement lorsque l'Allemagne a arrêté ses 5 centrales nucléaires, c'est qu'on a importé l'énergie qui manquait de la France, 75% nucléaire, et de la République tchèque, 60% charbon. Donc on n'a rien changé sur l'équipe. Ça, c'est la première observation. L'autre observation, c'est qu'effectivement, ça dépend où on est. Chez nous, en Suisse, on a des véritables problèmes. Nous sommes 40% nucléaire, 55% hydraulique. Nous n'avons pas une seule centrale au gaz dans le pays, pas une seule centrale au charbon, ni une seule centrale fossile. Nous, on a un véritable problème parce qu'on a tout construit ce qu'on peut faire au point de vue hydraulique grâce à des visionnaires il y a 100 ans qui ont construit tout ça. Donc là, nous, on a un véritable problème. L'Allemagne n'en a pas. L'Allemagne a une énorme, c'est pas bien plus sûr. L'Allemagne a une énorme capacité au point de vue central au charbon. Donc ce qu'ils ont tout simplement fait, c'est repeindre un certain nombre de vieilles casseroles au charbon. Ils sont en train d'en construire de nouvelles. Et l'Allemagne est en train de rouvrir des mines de charbon. Alors maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, c'est pas mon jeu. Mais indiscutablement, remplacer le nucléaire, c'est pas si simple, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas diminuer la consommation. Tout le monde est d'accord de diminuer la consommation. Vous allez diminuer un peu, vous aussi madame, mais moi pas. Et donc, la consommation énergétique mondiale est un énorme paquebot qui fait demi-tour très, très doucement. Donc, une sortie brutale, non réfléchie émotionnelle, politique telle que nous l'avons prise en Suisse va poser de graves problèmes.
Merci beaucoup. Une question ici qui s'adresse principalement à M. Villeneuve. On parle de, donc, on suggère que planter des arbres en climat boréal est une bonne chose pour stocker du carbone, mais certaines études suggèrent que planter des arbres en climat boréal augmente le réchauffement climatique puisque l'albédo d'une forêt est plus grand que celui d'un champ enneigé. Doit-on malgré tout planter des arbres? L'albédo étant bien sûr la capacité d'un terrain à réfléchir le rayonnement.
Oui, et pas la capacité d'un étudiant à réfléchir à sa question. Je vous dis, ça c'est une étude qui a été faite par Bernier. Nous avons naturellement travaillé sur ces affirmations-là. Dans les faits, le boisement dépend, tout est dans la façon et tout est dans l'analyse de cycle de vie qu'on en fait. Lorsque on regarde les paramètres qui permettent de faire du boisement boréal, si on veut éviter la transformation de l'albédo, il suffit par exemple de mettre des mélèzes au lieu des épinettes. Les mélèzes perdent leurs feuilles à l'automne, ils stockent encore plus de carbone dans le sol et ils n'ont aucun effet sur l'albédo parce que la lumière se rend jusqu'à la neige et ça ne pose pas de problème. Donc, vous avez votre référence et une étude qui a été publiée. On est parfaitement capable. Les conditions, d'ailleurs, de cette étude-là étaient de partir de zéro boisement à 25 à 40 % de boisement. Donc, ça enlevait toute la portion du plein stockage. Quand on fait du boisement, on fait du plein stockage et non pas du 25 à 40 %. Donc, les éléments de cette étude-là sont tout à fait intéressants, raisonnables. On doit y répondre, mais ils n'empêchent absolument pas et ils ne disqualifient absolument pas le boisement en milieu boréal comme étant un outil efficace. Et vous pourrez voir les papiers que j'ai mentionnés, là, il n'y a pas de problème là-dessus.
Merci. Ici, on a des questions plus sur le plan plus social, je dirais, qui sont plus générales. Une très bonne question. Le changement par la science, les faits, c'est très bon, oui, mais il faut aussi respecter le côté humain instinctif de la consommation d'énergie. Quelle est la place, donc, de faire preuve de bon sens, de comprendre l'équilibre naturel et de connecter avec l'environnement dans les politiques qu'on veut déployer pour vivre avec de l'énergie propre.
Je vais m'essayer.
OK.
En fait, je ne veux pas répondre à la question.
Non.
En fait, c'est intéressant de penser, retrouver des racines environnementales, mais il y a un éléphant dans la salle qu'on n'évoque pas. C'est qu'on a basé, depuis très peu de temps, tout notre développement sur un modèle économique qui est basé sur l'augmentation de la consommation, pas le maintien de la consommation, l'augmentation. Donc, les produits durent de moins en moins longtemps. Les réfrigérateurs qu'on achète maintenant, si on prend la courbe de combien de temps ça dure un réfrigérateur, tu sais, il y a 60 ans, ça durerait 60 ans, bien, dans 5 ans, on va en acheter qui vont être déjà cassés. Ça, c'est fondamental. Et tant qu'on n'aura pas reconnu que la consommation est freinée qu'on voit, que ce soit la taille des véhicules. Oui, nos véhicules sont plus efficaces au point de vue consommation. Alors, ils achètent de plus en plus gros. Essayez d'acheter 2 ans de suite, en fait, 2 ans. Après 10 ans, racheter le même véhicule, bien, ils consomment plus. C'est la base de notre système économique. Donc, ça, c'est de ça qu'il faut se déconnecter avant de se reconnecter sur des choses plus raisonnables. Mais je pense que ça, c'est un aspect qu'on ne peut pas éviter quand on parle de grandes problématiques économiques et de problématiques de développement durable. Donc, ça répond peut-être pas. Ça va devenir, écoutez, il faut que ce soit aussi passionnant pour les jeunes de lire de la poésie que d'aller au centre d'achat s'acheter le dernier T-shirt avec un logo dans un sac de plastique pour que tout le monde voit qu'il est neuf. Puis ça, c'est un problème de culture. On a eu une dérive de consommation. Il va falloir qu'on trouve une façon que ce soit aussi sexy de porter un chandail pendant 5 ans que d'en avoir toujours un neuf. Ça m'a fait plaisir d'en parler.
Merci Louis. Je vais penser à ton commentaire quand je vais m'acheter mon prochain smart fridge.
Oui, mais.
Une question ici pour Prof. Neissel. Oui, bon, peut-être brièvement.
Oui, mais j'ai eu le plaisir, il y a quelques temps, d'avoir un débat à l'Université de Genève avec un philosophe français dont le nom m'échappe, qui est le père de la théorie de la décroissance. Et quand j'étais là, comme étant l'hérétique, c'était dans un énorme amphithéâtre de plus de 600 personnes, je pensais que je n'allais pas sortir vivant de là. La décroissance est une théorie de riche. Et ce genre d'argumentation qu'effectivement qu'il faut qu'on soit plus sobre, je suis d'accord. Mais on ne peut pas appliquer cette théorie-là à tous les pays en voie d'émergence.
Tout à fait d'accord.
L'Africain, on pense aujourd'hui, si vous faites des calculs bêtes et méchants, qui sont les seuls dont je suis capable, entre aujourd'hui et 2050, l'Afrique va consommer entre 12 et 15 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. Simplement pour les ramener à la moyenne mondiale. Si on veut essayer de limiter la population sur cette terre, et c'est un défi majeur que nous avons, ça va passer par une injection massive d'énergie dans ces pays-là, parce que la consommation énergétique est très fortement liée aussi au développement économique de ces pays. Et l'autre, bien sûr, c'est l'éducation des femmes. Mais c'est la question énergétique qui est fondamentale. L'autre aspect que je voudrais ajouter au point de vue de la population, nous, énergéticiens, on a été pitoyables de donner des indicateurs à la population. Aujourd'hui, les économistes, c'est une chose qu'ils ont bien faite, ont donné des certains nombres d'indicateurs, ce que c'est que l'inflation, ce que c'est que le chômage, ce que c'est que les taux d'intérêt, etc. Ça parce que la population aujourd'hui comprend ça, parce qu'on a fait un énorme effort de formation. Dans le domaine énergétique, on n'a rien fait. Donc tant que nous, énergéticiens, on n'est pas capable de donner des indicateurs simples pour que la population puisse prendre à cœur ces indicateurs-là et les suivre, on n'y arrivera jamais, parce que c'est la population qui va faire la différence. Nous, scientifiques, on peut faire tout ce qu'on veut. Tant que la population ne s'est pas appropriée ce défi-là, on n'y arrivera pas, et les indicateurs vont.
Merci beaucoup. Peut-être une question pour Professeur Neissel, en fait, qui a été posée en anglais. Have you ever had the opportunity to present your talk, the one you just gave, to politicians? And if so, what was the feedback?
Yes, I did. I made a very similar presentation, it must have been a good 7 or 8 years ago, to a group of politicians. It was a collection of federal and provincial politicians. There was a resounding silence in the room. And I think it comes out of the fact that governments, of course, are faced with very difficult choices. And when they're faced with very difficult choices, particularly in the short term, there's a lot of pressures put on them. I actually have a lot of admiration for politicians because I think it's an unenviable position to be in when you're faced with all these numerous constraints and the constant cries from across the entire population for more, 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 more. And not a lot of people willing to chip in to make some sacrifices, some compromises, and some changes. So when I talk about this balance between the government, the people, industry, some really tough decisions need to be made there. But how do you make a tough decision when you're, let's say, even if you're in political office to make a big difference in the world, and I think a lot of people are, how do you do that if everybody's telling you that everything you do is wrong? And so this is the major issue, is within the short lifetime that a politician actually has in office, if they wish to make a difference, I think the compromises they have to make are so severe that they actually don't make significant progress on some of the most critical issues that are facing us. So I think the resounding silence that I heard in the room was not out of disdain for what I was saying. It was more out of the difficulty of facing the prospect of facing those very, very difficult choices. The hope, I think, that we have, though, is that we have a population that is much more educated about these issues than ever before, and they are starting to make demands. It's wonderful to see the 4,400 mayors of the communities in Europe that are willing to stand up and make some strong statements about what they stand for and what they're willing to strive for. And there's a lot of strength in those numbers because they set a bar that we can all strive for. And that, again, means that we as a population have to get in behind our politicians to try to get us all moving in that direction.
One little amusing fact. The first politician in the world who understood that environmental impact, that energy could be a very powerful tool to get reelected, was Arnold Schwarzenegger.
Yes.
Yeah. It's a fairly interesting fact, the fact that he can't basically be elected on the fact.
Merci. Peut-être une dernière question avant de quitter qui s'adresse vraiment aux quatre panélistes et qui résume l'ensemble du mini-symposium. Alors, je vous la pose. Un Québec 100% énergie propre, est-ce possible à la lumière de ça? J'aimerais vous entendre là-dessus. Peut-être une minute chacun. Je ne sais pas si c'est possible d'exiger ça de professeurs d'université. Et si ce n'est pas possible, 100%, est-ce que 80%? Est-ce qu'on doit viser 60%? Dans combien de temps? Est-ce que c'est dans 10 ans, dans une génération, dans deux générations? Est-ce possible? Qui veut commencer?
On ne sait pas.
Merci.
Fabienne va avoir le dernier mot.
ma dernière diapo dit que oui, c'est possible, à condition qu'on le considère avec les technologies à émissions négatives. Parce que dans les faits, on ne changera pas le rôle indispensable des produits du carbone ou le problème de la décarbonatation du calcaire pour faire du ciment. Pour faire du clinker, il faut faire du CO2, il n'y a rien à faire. C'est donc possible avec une vision large. Est-ce que c'est souhaitable? Sans doute. Mais je me dis que simplement avec l'électrification des transports dans un premier temps et avec certainement un effort au niveau des plantations de séquestration, on serait capable de descendre en bas du niveau soutenable pour la population mondiale d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on se maintenait dans cette moyenne-là, ben, ce serait déjà un bel exemple que dans un pays développé, en y mettant les moyens qui sont appropriés avec nos ressources naturelles, on est capable de faire notre part.
J'y donne ma minute. C'est bon. Parce qu'il a résumé vraiment bien toute la difficulté et toute la nuance dans cette question.
Jim?
I'm going to duck the question, except to say one thing. I have to believe that a sustainable energy future is possible, and the reason I have to believe it is because we have to do it. And I think it was the president of Virgin, Richard Branson. I think he said once something about how the reason he is successful is that he set himself impossible goals, and then he sets out to exceed them. And I think that's exactly what we need to do when it comes to this issue of renewable energy. We have ingenuity, we have a lot of brain power, we have a lot of motivation on the part of a lot of people. I can see the motivation on the part of the people in this room, and I can see the motivation in the students that I meet each and every day. And I know that the engineers that I work with, all the student engineers, want to do much more than they can accomplish through the technical work that they're doing. One of my students actually said to me a couple of years ago that I should not forget one really important thing, that students are the most renewable resource that we have because they're constantly being created, constantly being shaped by the experiences that they have in the world, and they constantly challenge us to do new things and bring new ideas to the table and to make us do things that we never thought were possible. So in a nutshell, then, I do believe that we can achieve 100% sustainability, we can 100% renewable eventually, but we need to tap into the resources, the brain power, and the people that are around us to make that happen.
Professeur Pitgen, le mot de la fin?
Je ne sais pas si ce sera le mot de la fin. Je crois que quand on pose ce genre de questions qui sont très, très généralistes, il faut aussi savoir dans quelles conditions. Est-ce que ça veut dire qu'on veut un Québec propre? Dans les mêmes conditions économiques qui sont les nôtres, est-ce qu'on veut avoir les mêmes possibilités de développement? Je viens d'être grand-père pour la deuxième fois. J'ai aucune envie que ces deux petits poupouches aient un niveau de vie différent du mien. Il n'a pas besoin d'être identique au mien, mais il doit être au moins un point de vue confort à la même chose. Donc je crois qu'il faut poser les aspects de contraintes sociétaux autour de ceci, plus simplement par une question tout à fait primaire. Quant au CO2, je suis persuadé, je suis pas du tout persuadé, là on aura une discussion plus tard, que la bonne solution c'est de compresser, mettre ça dans un trou et mettre un bouchon dessus en espérant que ça va y rester. Je crois beaucoup plus, et là la science a un véritable jeu à jouer, sur le cycle du carbone. Là effectivement je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et je crois la dernière question qu'il faut se poser, peut-être oui, Mais quand et qui va payer? Parce que ça va coûter énormément cher à faire. Et je ne suis pas persuadé, surtout dans la condition économique à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, que ça soit vraiment. Et enfin, et là je ne voudrais pas être inamical vis-à-vis mes amis du Québec et de Montréal pour lesquels j'ai une grande sympathie, la question n'est pas de savoir si le Québec sera propre. La question est de savoir si notre société industrialisée va pouvoir y aller. C'est ça la vraie difficulté. Arrêtons de nous regarder le nombril et regardons ceci au niveau sociétal mondial.
Je crois que somme toute, vous partagez les mêmes points de vue que professeur Villeneuve sur la façon dont il faut séquestrer le carbone. Peut-être juste 10 secondes.
Ça, les 10 secondes sont pour dire qu'on s'entend sur toute la ligne et j'ai simplement présenté la capture et séquestration comme étant l'option qui est vendue à l'heure actuelle. Et on aura certainement à se conforter dans nos...
Merci. J'aimerais qu'on donne une chaleureuse main d'applaudissement à nos panélistes.